êtes à l'écoute des programmes du studio Kalangou. Merci pour votre fidélité. Bonsoir à l'édition de 17h, c'est avec Rukayat Abdrahman. Les terroristes ont été mis en déroute dans la zone du Gourma. C'est pourquoi ils se sont repliés sur Tilia, a déclaré le général de brigade Abou Tarka, rencontré au forum de Niamey sur la paix et la stabilisation. En football, demain, le Niger jouera contre les éléphants de la Côte d'Ivoire dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. Le secrétaire général de la FENIFOOT décrit l'état d'esprit des joueurs dans ce journal. En partie magazine de cette édition, on parlera des conflits intercommunautaires en cours dans les pays du Sahel avec Dr Niagale Bakayogo, présidente de Africa Security Service Network. Deux personnes tuées, deux greniers brûlés, c'est le bilan d'une attaque perpétrée hier dans l'après-midi par des hommes armés non identifiés dans le village de Mian Hamani, situé à 40 km au nord-est d'Abala, région de Tillabéri, selon une source locale contactée ce matin par le studio Kalangou. La même source précise que des individus à bord d'une moto ont fait irruption dans le village et ont ouvert le feu sur les deux personnes. À propos du forum Niamey sur la paix et la stabilisation actuellement en cours à Niamey, le général de brigade Abou Tarka, président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, s'est prononcé sur l'attaque de Tilia où au moins 137 civils ont été tués par des hommes armés non étatiques. Selon le général, les terroristes ont été mis en déroute dans la zone du Gourma. C'est pourquoi ils se sont repliés vers Tilia et massacré des civils. On l'écoute au micro de Tarnan Foudé Ahmed.
Moi, ce que je sais de cette attaque, c'est que ce sont des groupes terroristes qui ont été chassés du Gourma. Ils s'en sont pris à des populations. D'abord, ils ont commencé pendant 2 semaines à racketter, à prendre la zakat. Effectivement, ils ont eu des accrochages avec les forces armées, la garde nationale en particulier, qui a fait une patrouille à partir de Egarek jusqu'à Tankadami et plus au nord. Il y a eu des arrestations dans le groupe terroriste, des morts. Et les terroristes, là, ils ont voulu montrer qu'ils existent parce qu'en ce moment, ils n'ont plus la capacité de s'attaquer directement frontalement aux forces armées. Et donc, pour faire parler d'eux, ils ont massacré des pauvres innocents de Tilia.
La première session de la chambre criminelle du tribunal d'Agadez s'est ouverte hier mercredi 24 mars. Pour cette session, 17 dossiers sont inscrits à l'ordre du jour. Moussa Abdelkadri, le président du tribunal d'Agadez, explique au micro de Moussa Mamane.
Pour cette première session, 17 dossiers sont inscrits au rôle, dont 4 cas d'infanticide, 8 cas de coups mortels, 3 cas de viol, 2 cas de vol criminel. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a initié cette réforme dont l'ambition est le traitement accéléré des dossiers criminels qui s'entassent au niveau des cours d'appel en attendant les sessions des assises, avec pour conséquence le désengorgement des prisons, tout en gardant à l'esprit le respect du droit de la défense et des droits humains. Particulièrement pour les détenus en attente de jugement, après plusieurs années en détention, seront désormais dans un délai raisonnable leur sort.
Le réseau des journalistes pour les droits de l'homme, RJDH, a tenu hier à Niamey une assemblée générale ordinaire couplée au lancement officiel des activités du projet promotion d'informations de qualité sur les droits humains au Niger. Le président sortant du RJDH a saisi l'occasion pour prévenir sur l'histoire et les progrès accomplis par l'association de sa création en 1999 à nos jours. Abdrahman Ousmane, président sortant du RJDH, au micro de Refika Taher.
Ce contexte était celui où le journaliste était enlevé, battu, laissé pour mort, pour certains, par ce qu'on appelait à l'époque les escadrons de la mort. De cette décennie d'intense activité, moi je retiens 4 choses qui ont marqué la vie du RJDH. La première chose, le RJDH a joué un rôle important aux côtés de 7 autres associations socio-professionnelles pour que la maison de la presse voit le jour. La deuxième chose, c'est la dépénalisation des délits de presse à travers l'ordonnance 2010-35 du 4 juin 2010 qui a consacré la dépénalisation des délits de presse. Troisième élément important, le RJDH a publié systématiquement chaque année un rapport sur la situation de la liberté de la presse au Niger. Enfin, la quatrième chose, c'est le réseautage et particulièrement la participation au mécanisme africain africain des droits humains à travers la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le RJDH a un statut d'observateur.
La situation post-électorale au Niger doit interpeller les acteurs politiques de tous bords, et cela pour préserver les acquis démocratiques selon le représentant des partis politiques non affiliés au CNDP, Conseil national de dialogue politique. Hambali Dodo invite les leaders politiques à mettre en avant l'intérêt du pays. Il est joint au téléphone par Moussa Hassan.
Depuis 1993, le Niger a régulièrement organisé des élections. Il n'y a jamais eu de contestation ou de tendance à l'usage des pratiques de violence comme cette année. Et c'est ça qui nous étonne. Le Niger est un pays réputé pour son aspiration pour la paix. Et si aujourd'hui les acteurs politiques deviennent les complices de la remise en cause de ces acquis, c'est regrettable parce que c'est une manière de remettre en cause les intérêts nationaux au profit des intérêts partisans. C'est ce que nous, en tant que non-affiliés, nous n'accepterons jamais de qui que ce soit. Aujourd'hui, les leaders politiques, tous bords confondus, sont tenus de se ranger devant l'intérêt national et, si possible, de faire front commun pour aider ce pays-là à se redresser.
À Dosso se tient une formation des acteurs de l'éducation sur l'importance du budget participatif dans la gestion de l'éducation. C'est dans le cadre du programme quinquennal Ibrahim Farha, mis en œuvre par Alternative Espace Citoyen à l'initiative de Plan Niger. Selon Hassan Boubacar, membre de l'Alternative Espace Citoyen, le budget participatif est une solution aux défis liés au développement local. Il est au micro d'Aoussi Abdrahman.
Cette formation a pour objet de renforcer les capacités des acteurs de l'éducation de la région de Dosso, notamment dans un certain nombre de communes avec lesquelles on travaille, dans la commune de Dosso, Moko, Garenkede, Yannasset. Donc, pour les amener à comprendre le processus du budget participatif. À travers ce programme quinquennal, on encourage un certain nombre de communes à aller vers ce processus-là, qui donne plus de possibilités aujourd'hui pour les communes de faire face à leurs obligations en termes de services publics d'éducation, services publics de santé, etc. On sait aujourd'hui les contraintes qu'il y a avec le processus budgétaire classique. Et du coup, le budget participatif est apparu comme une solution qui permet de prendre en compte un certain nombre de défis qu'on rencontre aujourd'hui, notamment en matière de développement local. Le budget participatif permet normalement une meilleure mobilisation des ressources, mais aussi ça donne plus de transparence à la gestion des affaires publiques.
La Fédération nigérienne des personnes handicapées est en atelier de formation depuis hier à Niamey sur le code de conduite inclusif de la FNPH. Ce document élaboré et adopté par le Bureau national de la FNPH en janvier 2020 vise à protéger les personnes handicapées de toute forme d'abus, de maltraitance, d'exploitation, de violence et de torture, selon le coordonnateur des programmes de la FNPH, Abdelkarim Abdoumadou.
Ce code de conduite, en substance, ce qu'il dit, c'est que toute personne qui travaille pour ou avec la FNPH, en signant ce code, il s'engage à protéger toutes les personnes qui sont bénéficiaires de la FNPH. Je vous donne un exemple. Quand vous signez ce code, quand vous organisez une activité, vous devez créer toutes les conditions pour inclure les personnes handicapées. Il faut que la salle soit accessible, qu'il n'y ait pas beaucoup d'escaliers pour qu'on puisse avoir accès. Ou dans la communication, si c'est vidéo, vous devez avoir la langue des signes pour que les personnes sourdes de comprendre, ou bien protéger tout simplement l'intimité, la dignité de tout un chacun. Par exemple, vous ne devez pas prendre de photos sans le consentement de la personne. Et ce code, il est là pour rappeler toutes ces mesures. Donc, en substance, c'est pour protéger les personnes handicapées et leurs familles, les communautés, les enfants, les membres de nos différents organes contre toute forme d'abus, toute maltraitance, exploitation, violence ou torture.
Un mot de sport dans ce journal. Le Niger est actuellement quatrième dans son groupe pour les éliminatoires de la CAN 2022. Le Niger jouera demain contre les éléphants de la Côte d'Ivoire à Niamey. Malgré le manque de 3 joueurs internationaux, dans quel état d'esprit se trouvent les joueurs au Niger? Mohamed Silliman, le secrétaire général de la FENIFOOT, répond. Il est joint au téléphone par Salamat Kadri.
Nos joueurs sont dans un état d'esprit très positif, ils sont confiants et sereins. Je peux vous dire qu'à quelques heures de cette importante rencontre, ils connaissent et reconnaissent la valeur de l'adversaire, qui n'est pas un inconnu de la scène africaine. Il s'agit quand même des éléphants de Côte d'Ivoire, un pays qui est, comme vous le savez, deux fois sacré, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un très grand pays de foot qui a donné au monde des joueurs, des légendes, j'allais dire. C'est un pays qu'il faut prendre évidemment au sérieux, mais cela ne veut pas dire qu'il faut partir en victime expiatoire, c'est-à-dire se faire marcher dessus, se faire battre à plate couture. Non, nous pensons que le football actuellement, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Les soi-disant petites nations disparaissent de plus en plus et je pense que les résultats que nous avons pu obtenir dans un passé récent nous permettent valablement de croire en nos chances tout en respectant l'adversaire pour faire la différence devant notre public.
Bonsoir grande sœur. Enfin, aujourd'hui je me suis décidée à venir te rendre visite au bureau.
Ah, Nafissa, tu sais, tu es toujours la bienvenue dans mon bureau.
Je sais, de toute façon, je suis ta petite sœur préférée, ou bien...
Toi-même tu sais, non? Est-ce que j'ai besoin de le dire?
Mais, attends grande sœur, apparemment vous ne blaguez pas ici avec les mesures de prévention contre la COVID-19.
Ah mais oui, avec cette deuxième vague, nous devons donner le bel exemple au peuple.
Je comprends alors. Tout à l'heure, le vigile à la porte ne voulait pas nous laisser entrer dans le bâtiment sans bavette et sans avoir lavé nos mains. Heureusement qu'on avait nos bavettes dans nos sacs. On les a enfilées et on a lavé nos mains. Et me voilà dans ton bureau.
Tu vois, cette deuxième vague qui a encore repris, c'est à cause des comportements de négligence comme les tiens. Tu dois être responsable, je te le répète toujours. À chaque fois que tu dois te retrouver dans un endroit avec le monde, porte toujours ton masque. Il ne faudra pas laisser la négligence prendre le dessus. Soyons responsables, protégeons-nous et protégeons les autres.
Tu as tout à fait raison, grande sœur. Merci beaucoup pour ces conseils.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Place à présent à la partie magazine de cette édition. Les conflits en cours dans les États du Sahel se communautarisent avec le massacre de plusieurs civils par des éléments des groupes armés non étatiques, estime Dr Niagale Bakayoko, présidente de Africa Security Service Network. Elle a également indiqué que l'évolution actuelle de la situation au Niger est préoccupante. Dr Niagale Bakayoko, interrogée par Tanane Foudé Ahmed.
Dans l'évolution de la situation aujourd'hui, c'est qu'il y a une communautarisation très nette des enjeux qui semblent se conjuguer avec d'autres dynamiques, notamment avec la dynamique terroriste, puisqu'on constate que les dernières attaques, enfin en réalité des massacres que l'on a à déplorer depuis le 2 janvier, on voit que ce sont des civils appartenant à des communautés explicitement identifiés qui deviennent des cibles. Ces dynamiques de communautarisation de la sécurité étaient déjà évidentes dans le contexte du Burkina Faso, puis du Mali. Au Niger, cette évolution me paraît particulièrement préoccupante.
Docteur, selon vous, pourquoi aujourd'hui les organisations terroristes s'en prennent à des civils non armés?
Je pense qu'il est important de voir que tous les groupes djihadistes ne ciblent pas les civils de la même façon. Les groupes affiliés à Al-Qaïda tiennent au contraire à se présenter comme des protecteurs de ces populations civiles et à axer davantage leur combat sur des attaques ciblant les forces armées nationales ou les forces armées internationales. En revanche, l'État islamique, qui paraît être derrière les attaques récentes, a une rhétorique et une approche beaucoup plus dure envers les populations civiles qui sont en général prises pour cible. Quand elles se refusent à se soumettre à certaines injonctions, on s'aperçoit aussi que l'État islamique a un discours vis-à-vis des acteurs humanitaires, considérant les membres de la communauté humanitaire souvent comme des croisés. C'est d'ailleurs à l'État islamique qu'a été revendiquée l'attaque de Kourée contre les humanitaires d'Acted au mois d'août.
Pensez-vous que la formation des milices d'autodéfense pourrait changer la donne de ces conflits de Sahel, particulièrement au Niger?
Il est possible, par exemple, au Burkina Faso, qu'il y ait une délégation de la part de l'État, mais cela nécessite un encadrement et surtout le respect de règles extrêmement strictes en matière de respect des droits de l'homme. La question qui se pose au Niger est de savoir si l'État va accompagner un mouvement impulsé par les populations.
Au rythme du Niger. La fabrication et l'utilisation des semences améliorées dans le département de Balayara face au changement climatique, c'est le thème du forum de ce soir. Merci, c'est tout pour cette édition d'information.